Y a-t-il encore un pilote dans l'avion de la diplomatie française? Plus que jamais, la question mérite d'être posée, que ce soit sur la scène du Proche-Orient ou sur la scène africaine, sur laquelle nous reviendrons dans un second temps. À Gaza, 2 mois après le lancement de la dernière phase militaire du conflit israélo-palestinien, les bombardements israéliens ininterrompus depuis le 7 octobre ont mené à la destruction quasi intégrale de toutes les infrastructures palestiniennes. Le bilan humanitaire est catastrophique, avec un nombre de victimes civiles palestiniennes situé entre 10 000 et 15 000 morts, et un nombre de 30 000 blessés, dont une grande majorité d'enfants, au point qu'on parle désormais de génocide et de crimes de guerre. Sans même évoquer les centaines de milliers de Palestiniens déplacés vers le sud de Gaza en plein hiver, le dossier délicat de la libération des otages israéliens et palestiniens, ou la timide trêve qui n'a pas empêché la reprise des bombardements. Sur le volet maintenant diplomatique de ce dossier, les différentes positions du président de la République Emmanuel Macron ont pour le moins manqué de cohérence, puisque nous sommes passés d'une première position de soutien indéfectible à Israël et à son droit à la légitime défense dans le cadre d'une visite d'État auprès du Premier ministre israélien Netanyahou, suivi d'un appel à une coalition internationale contre le Hamas, à l'image de la coalition contre Daesh, appel qui a provoqué un tollé dans les officines diplomatiques du monde arabe. Puis, dans un second temps, le même Emmanuel Macron a lancé un appel d'urgence à un cessez-le-feu qui a provoqué la colère immédiate de Benjamin Netanyahou, avant de revenir vers une vague synthèse en déclarant qu'une guerre contre le Hamas durerait au moins 10 ans et qu'il fallait rassurer Israël tout en tenant compte des aspirations des Palestiniens. Alors comment comprendre ces changements successifs de position diplomatique? Et au-delà, comment comprendre l'évolution de la diplomatie française au Proche-Orient? Et nous le verrons ensuite en Afrique. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Conessa. Bonjour et bienvenue
Bonjour.
sur Mizen TV, Pierre Conessa.
Bonjour.
Vous êtes un ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, énarque. Vous avez été notamment directeur adjoint de la délégation des affaires stratégiques et directeur général de la Compagnie européenne d'intelligence stratégique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Parmi eux, on citera Le lobby saoudien en France, Comment vendre un pays invendable aux éditions de Noël, ou encore Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel aux éditions de l'Aube. Nous recevons également Idriss Aberkane. Bienvenue sur Mizen TV.
Merci.
Vous êtes essayiste, conférencier, géopoliticien. Vous avez soutenu et obtenu plusieurs doctorats, dont une thèse au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Vous êtes également le fondateur et l'animateur d'une chaîne d'analyse et de décryptage sur YouTube qui rencontre un grand succès. Vous êtes enfin l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un best-seller Libérez votre cerveau aux éditions Robert Laffont, suivi de L'âge de la connaissance chez le même éditeur, et plus récemment, I, poésie et théorie. Alors messieurs, comment comprenez-vous les nombreux changements de position diplomatique de la présidence française sur la question israélo-palestinienne? Pierre connaît ça.
Je suis moins sensible que vous au changement de posture parce que après l'attaque du Hamas, la planète entière était dans l'émoi parce que les images diffusées, les massacres, les viols, etc., rendaient nécessaire une position et une forme de solidarité. Et donc elle s'est manifestée par une visite à Netanyahou. Cela dit, le président est revenu ensuite à une position plus arbitrale, si vous voulez, entre les deux, entre le Hamas et l'État d'Israël. Et surtout, il a dit cette phrase que je trouve assez importante. Il a dit, de toute façon, la répression actuelle prépare la guerre dans 10 ans. C'est-à-dire qu'il met bien en évidence que cette solution répressive, qui est celle qui est adoptée par Netanyahou, n'est pas celle qui, de toute façon, résoudra la crise. Donc, je suis moins sensible. Puis en plus, vous savez, après avoir passé 40 ans sur les affaires diplomatiques et stratégiques, il faut se faire attention au fait que c'est une espèce de Titanic, la politique étrangère. C'est-à-dire qu'elle continue à fonctionner avec ses cadres, ses analyses, etc. Et les revirements sont assez rares. Par contre, les surprises stratégiques, oui, elles arrivent. Et ça, on parlera, si vous voulez, plutôt de l'Afrique sur ce sujet-là.
Très bien. Alors, Idriss Aberkane, est-ce que vous partagez la même vision, j'allais dire compréhensive, ou peut-être fondée sur une certaine expérience du fonctionnement de la diplomatie française? Est-ce que ces changements de position diplomatique sont le fruit d'une fragilité politique de la diplomatie française dans la région? Quel regard portez-vous sur ce changement de position?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre Conessa. C'est l'appareil diplomatique français, même si Emmanuel Macron l'a bien entamé dans sa culture, dans sa crédibilité et dans sa structure, parce que la structure même a été complètement remaniée et aujourd'hui c'est même difficile de s'y retrouver. Mais au-delà de ça, ça reste un porte-conteneur CMA-CGM, hein, c'est le Jules Verne, le machin, donc ça ne revire pas comme ça. Par contre, en termes de, comme disent les Marseillais pour rester sur CMA-CGM, en termes de parole verbale, Macron est obligé parce que quand même la France a une très grande communauté musulmane et donc c'est important de lâcher du lest et de faire des déclarations qui puissent être perçues de la bonne façon. Mais il n'y a pas de revirement diplomatique, ça c'est clair et net. Et de toute façon, si on voulait même aller plus loin, enfin, on peut remonter tout ça aux fameuses directives de Condoleezza Rice quand la France s'est opposée à la guerre en Irak, quoi, hein. Oubliez les Russes, pardonnez aux Allemands et punissez les Français. Bon, bah, oubliez les Russes, on voit ce que ça a donné. C'est-à-dire, on avait quand même évoqué la possibilité que Poutine puisse entrer dans l'OTAN à une époque. C'était complètement délirant, mais c'était envisagé. Pardonnez à l'Allemagne. Bon, même Helmut Kohl, avec qui est jusqu'aux genoux dans Gazprom, a pas trop été inquiété. Par contre, punissez les Français. Bah, là, je vais terminer là-dessus avec l'excellente phrase des Guignols. Ils ont empalé la Chiraki du fion jusqu'aux oreilles. C'est Bruno Gachiot qui parle. Hein. C'est-à-dire que quand il y a eu l'affaire Carstream, tous les Chirakiens ont été empalés propre et net. Et après, il y a eu deux solutions. Soit ceux qui sont morts politiquement, comme de Villepin, pourtant on aurait sacrément besoin de lui aujourd'hui. Soit ceux qui ont viré Kazakh, comme Juppé, comme Imam, comme Barouin, etc. Et depuis cette époque, dans le monde arabo-musulman, l'attitude diplomatique de la France est perçue comme 50 nuances d'hostilité, quoi. Et donc, dans tous les cas, ça changera rien à ça.
Alors, vous avez un petit peu anticipé une question que j'allais vous poser sur l'évolution justement de la politique diplomatique de la France. Avant d'arriver à cette question, je voudrais quand même souligner certains faits hein, récents qui montrent tout de même un certain malaise diplomatique. On a vu la tentative avortée du président Emmanuel Macron de réunir quelques pays arabes pour négocier une sortie de crise, l'annulation de la conférence de Bagdad et aussi l'annulation à Dubaï d'une rencontre avec Mohamed Ben Salman. Beaucoup rappellent justement, expliquent que l'appel initial du président Macron à une coalition internationale contre le Hamas, que je rappelais tout à l'heure à l'image de la coalition contre Daesh, avait été vraiment une grosse erreur qu'il faut faire oublier. Est-ce qu'aujourd'hui la diplomatie française et la parole présidentielle ont encore une influence et une crédibilité dans le monde arabe? Pierre Gonessa.
Bah, ce que vous avez décrit, si vous voulez, montre que ce qui est quand même la caractéristique de cette crise, c'est le bal des hypocrites. Les Palestiniens sont actuellement bloqués par l'Égypte, donc ils sont enfermés à Gaza. Aucun des pays du Golfe n'a proposé d'en accueillir une proportion significative. Vous savez que l'Arabie Saoudite, par exemple, qui a de l'argent et de l'espace, a accueilli en tout et pour tout 400 000 Palestiniens. Bon. Donc, si vous voulez, c'est un système dans lequel se sont figés un certain nombre de pays arabes dans un rôle absolument scandaleux, puisqu'ils disaient toujours, non, non, pas de démocratie, la cause sacrée, c'est Israël. Bon. Donc, on retrouve là des caractéristiques. Ces pays qui étaient en train justement de renormaliser leurs relations avec Israël se trouvent tout à coup en porte-à-faux, puisque la répression israélienne à Gaza va mettre en feu la rue arabe. Donc, sur le fond, cette attaque du Hamas, dont l'horreur doit toujours être dénoncée, est quand même un changement diplomatique, et oblige, si vous voulez, à des changements diplomatiques très très significatifs. Maintenant, sur le rôle de la France dans la région, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une tradition gaulienne qui survit. C'est vrai que vous avez raison, Villepin est encore le dernier à avoir porté, si vous voulez, ce discours de la dénonciation lors de l'invasion de l'Irak. Bon, il s'est retiré des affaires, mais c'est vrai que tout le monde y fait référence aujourd'hui. Donc, vous voyez bien qu'on est sur des sujets qui sont assez étonnants, puisque la tradition gaulienne, ça consiste à faire des références à des grands moments diplomatiques français. Bon, ben, si on n'a pas, on n'a personne aujourd'hui pour être à la hauteur de ses ancêtres, effectivement, on joue petite main, quoi, on joue en seconde division.
Est-ce que c'est pas une erreur comment dire, de faire partir la dernière phase du conflit, la dernière phase militaire de ce conflit israélo-palestinien à l'attaque du 7 octobre. Ça a été souvent rappelé en expliquant que finalement les causes profondes de ce conflit remontent bien avant, évidemment, mais vous le savez bien, en rappelant notamment la question de la colonisation qui a entraîné des conditions de vie assez, assez désespérantes, hein, notamment pour les habitants de la bande de Gaza. Est-ce que la focalisation excessive sur l'attaque du 7 octobre ne crée pas une occultation qui contribue à prolonger l'impasse justement de cette réflexion sur le conflit israélo-palestinien?
Ben, écoutez, moi je dis toujours que. Non, excusez-moi, moi je dis toujours qu'on a deux radicalismes face à face. C'est-à-dire qu'effectivement le Hamas porte la forme la plus violente de la résistance palestinienne. Et la deuxième, c'est que Netanyahou ne veut absolument pas d'un État palestinien et qui fait tout ce qu'il faut pour que cet État n'existe pas. Bon, non seulement il y a cette espèce de ghettoïsation de Gaza, mais continue penser que se poursuit en Cisjordanie des colonisations sauvages faites par des juifs intégristes, c'est-à-dire qui sont aussi radicaux que les salafistes, qui vont faire des colonies illégales défendues par l'armée israélienne dans des routes réservées à l'armée israélienne qui font que la Cisjordanie devient ingouvernable. Bon, si on ne rappelle pas les deux choses à la fois, on ne comprend pas cette crise. Donc on se contente de la condamnation morale et c'est ça qui est le plus pervers. Mais vous voyez, moi je trouve que justement l'évolution de l'opinion est quand même assez significative. Hein. L'idée de la cause sacrée d'Israël a pris beaucoup de plomb dans l'aile, y compris dans les grandes démocraties, où les gens disent, mais non, on ne peut pas continuer comme ça, en rappelant ces éléments que je viens de vous donner. Donc, moi, je trouve que cette crise a profondément bouleversé les lignes.
D'accord. Alors, un autre signe d'un malaise évident sur cette question diplomatique, plusieurs diplomates français issus de la direction de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la NMO au Quai d'Orsay, ont exprimé récemment dans une note interne leur frustration et leur vive inquiétude sur l'impact profond de la position pro-israélienne d'Emmanuel Macron, pardon, sur l'image et la sécurité de la France dans les années à venir. De quoi cette fronde interne, finalement, des diplomates français, comme on a pu l'appeler, est-elle le nom ou le symptôme, finalement, pour la diplomatie française, Idrissa Berkane?
Alors là aussi, c'est plutôt une question à laquelle Pierre Conessa aurait sans doute mieux répondu que moi. Mais beaucoup de hauts fonctionnaires en France ont le sentiment qu'on ne les laisse pas faire leur travail. Mais ce n'est pas que dans la diplomatie, quoi. On l'a vu dans la police, on l'a vu même dans le secteur médical, etc. Et là, bon, bah, y a une rupture, quoi. Ils ont l'impression qu'on ne leur donne pas les bonnes conditions de stabilité, donc en particulier de stabilité de la réputation de la France, de la lisibilité de sa politique étrangère. Et puis surtout, on est quand même dans une période où en face, il y a Poutine. Et comme l'a très bien rappelé le collègue de Pierre Conessa, à savoir Yossi Cohen, l'ancien patron du Mossad, il faisait une conférence à l'université Tufts il y a quelques mois. Et il disait, les gars, soyez clairs, avec Poutine, il est sûr d'être au pouvoir jusqu'en 2036. Donc ça donne une voilà, enfin, tout de suite, hein, il était quand même en Occident, enfin, en extrême Occident, on pourrait dire, aux États-Unis. Et voilà, il leur disait, maintenant, il y a la drogue que vous envoyez à la télé, de dire que Poutine a la diarrhée alsacienne, et puis qu'il est parkinsonien, schizophrène et tout ça. Enfin, pour la diarrhée alsacienne, j'élabore, mais pour autiste, parkinsonien et cardiaque, ça a vraiment été dit par la presse. Et donc, quand en face de ça, on a une diplomatie de cette nature avec les BRICS, sans parler de la force de frappe économique aussi, parce que les Russes, ils ont Rosatom. Et Rosatom, c'est la seule société clé en main de centrale nucléaire au monde. Donc ils peuvent débarquer dans n'importe quel pays et lui dire on va installer des centrales chez vous sans que vous ayez à passer par l'accord 1, 2, 3 des Américains, ce qui est une force de frappe colossale. Ils viennent avec aussi les moyens de financement. Bah, en face de ça, et ça me désole, hein, mais ce qu'a dit Pierre Conessa, c'est une diplomatie qui joue en deuxième division. Enfin, ça pique, mais c'est vrai, quoi. Alors que la France avait le deuxième réseau diplomatique au monde, jusqu'à récemment. Donc du coup, voilà, ils ont simplement l'impression qu'ils n'ont pas les moyens de leur mission. D'une façon générale, que ce soit via des déclarations, que ce soit via des revirements, que la tradition diplomatique française n'est plus adaptée à leur travail, quoi.
Pierre Conessa, quel regard vous portez sur cette fronde ou cette inquiétude exprimée par tous ces diplomates sur la position d'Emmanuel Macron. De quoi? Enfin, on a parlé d'une fronde enfin, historique, hein, c'est quand même un mot qui a été employé par les commentateurs. Voilà, quel regard vous portez-vous sur ce malaise?
D'abord, il faut rappeler une caractéristique de la Constitution de la Ve République, c'est que la politique étrangère relève du président. C'est la première chose. Parce que ce pouvoir-là était non seulement contesté à l'intérieur par ces diplomates dont vous parlez, mais aussi par la position de son ancien Premier ministre, si vous voulez, qui a pris des initiatives sur le conflit ukrainien, et en fait, en faisant comme s'il était encore aux manettes. Bon. Donc, sur le fond, c'est assez original, effectivement, les diplomates sont des personnages de grande qualité, mais qui effectivement apprennent quand même à avaler les couleuvres. Hein. C'est pas une nouveauté dans la diplomatie. Il faut arriver à sauver la face. Là, ça traduit quelque chose qui est assez nouveau, qui est assez effectivement important, mais qui en même temps a l'avantage de poser un problème public. C'est-à-dire de dire finalement, est-ce que ces revirements du président sont acceptables par rapport à la tradition qui, encore une fois, fait l'originalité de la France, c'est-à-dire la tradition gaullienne, dont la dernière manifestation était l'opposition de Chirac à la guerre en Irak. Donc, je trouve ça inquiétant parce que finalement, c'est une indiscipline dans les rangs, mais enfin, en même temps, je ne sais pas comment la chose a été prise du côté du Quai d'Orsay. Donc, vous savez que dans le système, il y a toujours un conseiller diplomatique auprès du président, et même si le ministre des Affaires étrangères peut avoir un pouvoir, il reste que, évidemment, ces personnages qui entourent le président, c'est comme une cour dans une monarchie, ont une capacité de filtrage et de. Bon, en même temps, si vous voulez, moi, je voudrais rappeler un épisode qui est tout à fait autre, si vous voulez, mais. Quand il y a eu le génocide au Rwanda, bon, j'étais tellement révolté par ce qui se passait, parce que j'avais moi-même fait des notes d'alerte avant le génocide, qu'après on a fait avec mes collaborateurs un travail qui traversait une question, c'était est-ce que les pouvoirs politiques avaient des moyens de savoir ce qui risquait de se passer? Donc on a repris tous les télégrammes diplomatiques, toutes les notes de renseignement de la DGSE, toutes les notes de renseignement de la direction du renseignement militaire, c'est-à-dire on s'est mis dans ce canal d'information publique qui remonte jusqu'à la présidence. Et donc, alors que si vous voulez, dans les rues de Kigali, il y avait des tracts d'une violence, d'un racisme absolument extraordinaire, les diplomates n'alertaient pas du tout. Ils faisaient comme s'ils ne voyaient rien. Bon. La DGSE, la direction du renseignement militaire s'occupait des questions militaires sur l'Est, donc ça ne la concernait pas. Mais par contre, la DGSE avait alerté, une fois. Alerté, encore une fois, dans les limites de ce qu'on pouvait penser. C'est-à-dire, personne n'aurait douté que ce serait cet effroyable massacre. Mais en tout cas, on n'a jamais réussi à savoir jusqu'où cette note d'alerte avait été montée. Vous voyez la question? C'est-à-dire qu'on s'est demandé, est-ce que ça a atterri sur le bureau du président ou pas? Ou est-ce que ça s'est arrêté chez un vulgaire collaborateur, si vous voulez, le troisième niveau, qui se dit, mais est-ce que je vais déranger tout le monde avec cette note? Et ça, c'est une caractéristique du système d'information public à l'intérieur de l'administration. Donc, si vous voulez, encore une fois, je ne sais pas quel est le degré d'isolement du président par rapport à ses structures. Est-ce qu'il prend en compte? Est-ce qu'il y a des filtres? Mais si vous voulez, la sociologie du pouvoir et son mode de décision, qui est le sujet sur lequel moi j'ai le plus longtemps travaillé, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ce que les historiens vont raconter par la suite.
Donc pour vous, ce n'est pas le symptôme d'une fragilité qui aurait justifié que les diplomates sortent de leur réserve habituelle pour essayer d'alerter justement hein, sur des conséquences dramatiques. Pour vous, c'est plutôt une indiscipline qui est problématique pour le fonctionnement de la diplomatie.
Non, c'est tout à leur honneur hein, d'avoir pris ce risque. Parce qu'évidemment, ensuite, vous savez, les affectations en poste, ça va se discuter. Et puis, c'est le président qui décide. Donc, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont pensé que c'était important dans le débat. Et ça, moi, je salue cet acte de courage. Hein, ce n'est pas une indiscipline. C'est effectivement, bon, peu importe le mot, une indiscipline, une mutinerie, ce que vous voulez, j'en sais rien. Mais c'est un acte civique. Et c'est ça qui me paraît le plus important, quoi.
Alors on va revenir maintenant justement à cette évolution de la diplomatie française que vous avez tous les deux évoquée. C'est la grande question finalement, comment sommes-nous passés en seulement 20 ans d'une politique gaulliste pro-arabe, incarnée pour la dernière fois par Jacques Chirac, comme vous l'avez rappelé, et Dominique de Villepin, à une politique d'indifférence peut-être, ou de retrait sous Hollande, jusqu'à l'actuelle position plutôt franchement pro-israélienne du président Macron, mais qui avait déjà été initié d'une certaine manière par Nicolas Sarkozy en son temps. Quels sont les critères ou les facteurs qui expliquent cette rupture diplomatique avec la ligne gaulliste? Idrissa Berkane.
Alors, pardon, j'ai l'avantage, disons, de ne pas être tenu au même devoir de réserve que Pierre connaît ça. Donc, je peux, si vous voulez, être plus cru et saignant sur cette question. Encore une fois, on revient à Condoleezza Rice qui avait dit oubliez les Russes, pardonnez aux Allemands et punissez les Français. Et le punissez les Français, ça a été une, je vais le dire cash, hein, une promotion par la CIA des plus anti-gaullistes que vous pouviez trouver sur la place parisienne. Donc ça vous donne du Kouchner, ça vous donne du Sarkozy, ça vous donne la liquidation du gaullisme et la liquidation de la Chiraki a été faite avec une structure. Vous aviez d'une part les gens qui ont été recrutés à l'époque de 68. Vous prenez le cas de Kouchner, il était sincère, c'est-à-dire que lui, il a vu le Biafra quand il était jeune et la CIA l'a recruté sur cette base-là. Il détestait De Gaulle. Le Biafra, c'est peut-être la plus grosse connerie de De Gaulle, je veux bien le reconnaître. Je suis gaulliste jusqu'au bout des ongles, mais je reconnais que le Biafra, c'était une sacrée connerie. Et le jeune Kouchner, bah, à partir du Biafra, il va développer une haine viscérale du gaullisme. Et ça va permettre aux services américains de prendre langue avec lui et d'être plus, disons, bienveillant. Et puis, comme dirait Palpatine dans Star Wars, de surveiller sa carrière avec une grande curiosité. Ce qui fut dûment fait, puisqu'on l'a retrouvé aux affaires avec l'apothéose diplomatique qui a été de dire l'Iran doit se préparer au pire et le pire c'est la guerre. Donc on voit bien que là déjà la liquidation du gaullisme était faite. Concernant Nicolas Sarkozy, bon bah là aussi il a été sincère, je vais être honnête, hein, les jogging à Central Park avec un t-shirt NYPD, ça renvoyait la couleur, il n'a pas menti à ses électeurs. Boris Boyan en Irak. Hein, qu'il appelait affectueusement mon petit arabe, mais Boris Boyan disait sur les plateaux télé, vous savez, c'est pas grâce à nous les Français que l'Irak est une démocratie aujourd'hui. Bon, c'était avant Daesh, c'était avant qu'on ait les audits jamais menés à bien du Pentagone qui montrent que l'Irak a coûté au moins 3 000 milliards, avec du détournement de fonds et puis des fortunes colossales qui ont été faites par Bechtel et Halliburton, hein. Surtout Bechtel d'ailleurs qui voulait se payer Saddam Hussein depuis qu'il n'avait pas payé son grand chantier. Et puis Bechtel est notoirement connu pour être proche de la CIA, hein, puisque les membres de Bechtel se retrouvent régulièrement au gouvernement américain. Donc dans ce contexte, Sarkozy c'est un cas à part parce que littéralement son beau-père était Frank Wisner, littéralement. Donc, au cadre de la CIA, était le nouvel époux. Je ne sais pas s'ils se sont mariés d'ailleurs, mais en tout cas, le nouveau compagnon de sa mère après que son père l'ait abandonné. Donc, factuellement, il pouvait être que disons, avoir une vision proche de celle qui dominait à Washington à l'époque. En tout cas, pour la faire courte, à partir de 2005, Chirac fait un AVC et la politique étrangère gaullienne de la France, c'est fini. Et ça ne reviendra plus jamais. De 2005 à 2007, on a la lutte de pouvoir Villepin-Sarkozy. Mais Villepin, malgré toutes ses qualités, n'est pas un animal politique. Et comme Sarkozy le disait, il n'y est pas allé à l'arme blanche, Sarkozy, si. Il y a eu l'affaire Clearstream, qui, là, pareil, je suis tenu à aucun devoir de réserve. Donc, je vais vous le dire comme je le pense, est une opération de la CIA. Comme elle en a le secret, comme elle l'a fait pour Bettino Craxi, comme elle l'a fait pour Giulio Andreotti, comme elle l'a fait pour Lula à l'époque où Lula les emmerdait. Maintenant, Lula est plus complaisant. Mais c'est. Voilà. Et donc, ça a flingué de Villepin, ça a envoyé un message clair à tous les Chiraquiens, c'est-à-dire la Chiraquie n'est pas une situation d'avenir. Et encore une fois, Barouin, MAM, Juppé, etc. l'ont parfaitement compris. Et on voit les positions qu'ils ont prises par la suite. Et à partir de ce moment-là, avant Hollande, c'est là que je voulais en venir. N'oublions pas que c'est Sarko qui a contribué à faire buter Kadhafi. Là, je me régale de rechef de mon absence totale de devoir de réserve. Les Américains, voilà, les Américains, ils l'auraient pris Kadhafi à la propre. Ils auraient fait ça façon hollywoodienne, un peu comme Saddam Hussein. Ils l'auraient pendu, ils lui auraient fait un procès. Ils auraient fait durer un peu les choses, quoi. Mais le fait de le liquider en rase campagne dans une tuyauterie. D'égout, ça c'était un truc qui était un petit peu bâclé et qui selon moi était justifié par le fait qu'il avait quand même des dossiers très importants sur le financement de la campagne de Sarkozy. Donc c'est avant Hollande, pour simplifier, et ça ne s'est jamais, ça n'a jamais cessé puisque de toute façon le Parti socialiste depuis Mitterrand avait depuis l'affaire Farewell etc. s'était rapproché des Américains. Malgré la déclaration sur son lit de mort, la fameuse hein, déclaration de Mitterrand, hein, ils sont voraces les Américains, tout ça, tout ça. Et puis bon, bah Macron, c'est l'apothéose puisque Macron, sa campagne a été notamment financée par KKR. Et puis il y a l'affaire Alstom, et puis il y a la revente de Gemalto, de l'Atecoer, etc. Donc on ne peut pas s'attendre foncièrement à ce que la politique étrangère sous Macron redevienne chiraco-gaulliste, quoi. Donc voilà comment je résume les choses. À partir de 2005, il n'y a plus de gaullisme en France. Il y a du gaullisme rhétorique. Enfin, il n'y en a plus au pouvoir. Il n'y en a plus aux affaires. Et la diplomatie a suivi, tout simplement.
C'est très important, c'est une analyse très importante, Pierre Conessa, qu'Idrissa Berkane propose pour expliquer la rupture diplomatique de la ligne française du gaullisme à aujourd'hui, avec une implication directe des États-Unis, de la CIA. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous partagez cette analyse? Alors, vous avez un devoir de réserve, mais bon, on peut rester quand même factuel jusqu'à un certain point, au moins. Voilà, quel regard vous portez sur ça? Et sinon, quelle est votre analyse de cette rupture diplomatique et de cette disparition du gaullisme au niveau présidentiel à tout le moins?
Bon, moi je suis toujours très surpris, si vous voulez, d'entendre les plans secrets de la CIA, parce qu'évidemment, j'ai beau avoir été dans un service de renseignement, je peux pas, je peux très bien vous dire qu'effectivement il y a les plans contraires, etc., mais je ne le ferai pas parce que ce qui m'intéresse n'est pas tellement cette espèce d'action secrète. D'abord, je rappelle que Kadhafi a été tué par des Libyens, d'abord, hein, pas par des soldats français, et donc il a été lynché. Ce qui laisse montrer qu'il n'y avait pas obligatoirement une situation de grand amour à son égard. Mais par contre, effectivement, ce qui est le plus intéressant, et c'est à ça que je me suis intéressé, c'est comment se décide autour du président de la République des grands axes de politique étrangère, par exemple la Libye. Bon. Moi, j'ai insisté sur le fait qu'après la disparition de l'URSS, et comme le monde, le paradigme qui était celui qu'on utilisait pendant 50 ans ne fonctionne plus, c'est-à-dire la bipolarité, à ce moment-là, on s'est trouvé face à des situations où, d'une part, les Américains souhaitaient conserver leur unipolarité, donc c'est les bouquins, vous savez, sur le clash des civilisations, etc. Le clash des civilisations a été traduit en 35 langues, c'est pour vous dire comment ils ont réussi à structurer le débat dans les décennies. Bon. Et puis ensuite, il y a le 11 septembre. Et le 11 septembre, c'est extraordinaire parce que, à ce moment-là, chez les Américains, qui est un pays qui n'a jamais connu la guerre, qui ne sait pas ce que c'est qu'une ville rasée, qui ne sait pas ce que c'est que des tickets de rationnement, tout à coup, il y a une doute existentielle, c'est-à-dire comment était-ce possible? Donc il y avait deux questions, c'était pourquoi nous? Et donc évidemment, pourquoi nous, ça aurait voulu dire un réexamen critique de la diplomatie américaine. Ou alors sont apparus sur les plateaux télé, justement, ce complexe militaro-intellectuel pour leur dire non, non, attendez, c'est pas vous, c'est les autres, c'est l'autre qui est fou. Alors il y en avait une catégorie que j'aime beaucoup, si vous voulez, qui sont les psys. Parce que les psys sont apparus à ce moment-là pour dire aux Américains, non, non, mais vous inquiétez pas, vous, vous êtes normaux, c'est l'autre qui est fou, l'autre étant évidemment Ben Laden. Bon. Après, les autres, l'autre développement, alors je reviendrai sur les psys parce que c'est ceux qui aujourd'hui diagnostiquent Poutine sans jamais l'avoir rencontré. Vous voyez bien que là, ce n'est pas un plan secret de la CIA, c'est une sociologie de la décision politique qui vont expliquer qu'il est parano, schizophrène, qu'il a le cancer, qu'il a grossi, qu'il a maigri, etc., etc. Le seul psy qui refuse de diagnostiquer Poutine, c'est Cyril Lee, qui dit, moi, je ne diagnostique pas un individu que j'ai jamais rencontré. Les autres, pour les autres, l'appétit du plateau télé est tel qu'ils viennent pour dire des choses qui sont contraires à leur éthique professionnelle. Donc moi, c'est ces mécanismes-là qui m'intéressent. Et ces mécanismes-là sont ceux qui environnent, si vous voulez, le politique et qui vont l'interpeller depuis un plateau télé en disant, on ne peut pas ne pas, donc il faut intervenir. Donc je suis moins convaincu, si vous voulez, par le développement de tous ces plans secrets, parce que finalement, on a beau financer une élection, on n'est jamais sûr du résultat. On n'est jamais sûr du résultat. Vous savez, les électeurs, ils ont cette caractéristique. Regardez par exemple en Irak, quand les Américains détruisent l'Irak et qu'ils disent on va vous installer la démocratie, les chiites ont dit oui, c'est une très bonne idée, un homme, une voix. C'est-à-dire, c'était le meilleur moyen de faire éclater ce pays multiethnique qu'est l'Irak. Bon, vous voyez comment le décalage entre ce qui se décide et la réalité de terrain, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire des gens qui sont proches.
De Pierre Conessa, si pour vous c'est pas, vous n'êtes pas convaincu par les plans secrets, alors pour vous, quels sont les facteurs politiques qui expliquent cette rupture qui est quand même historique, parce que c'était le ciment. On avait affaire à un demi-siècle de politique française avec un ciment qui orientait cette politique. Aujourd'hui, on est dans la rupture. Pour vous, c'est quoi les critères qui expliquent cette rupture, finalement, cette évolution?
Ben, la tradition gaullienne était encore une fois une originalité dans un monde bipolaire, c'est-à-dire la France avait une voie qui n'était ni celle des Soviétiques ni celle des Américains. Bon, apparemment, où les Soviétiques disparaissent, il ne peut rester que l'anti-américain. Mais vous voyez bien que ça ne donne pas une originalité aussi forte, sauf quand effectivement se décide dans ce nouveau pouvoir de la Maison-Blanche qui croit que le monde lui appartient et que s'il suffit d'une action militaire américaine pour qu'une crise soit résolue, que Chirac décide de ne pas y aller. Bon. Mais les sanctions, pardon, les sanctions que les Américains ont imposées, le French bashing, si vous voulez, étaient des sanctions qui déstabilisaient complètement le système de défense français. C'est-à-dire que il y avait de la privation sur des pièces, de la technologie, sur des entraînements, etc., etc. J'en avais discuté avec le chef d'état-major des armées. Il savait que c'était un moyen de pression extrêmement fort. Et donc, ce qui est original, c'est que Chirac ait refusé, mais que ses deux successeurs ont pédalé tout ce qu'ils pouvaient pour rattraper les Américains en Irak. Donc la question, encore une fois, ce n'est pas le plan américain, c'est pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de la classe politique française, vous avez des gens qui ne sont plus capables d'avoir une analyse du monde, si vous voulez, qui puisse être pro-américaine, mais pas aussi attachée, si vous voulez, au suivisme. C'est ça, à mon avis, la véritable question. Donc Hollande, je ne veux pas m'attarder sur lui, mais Hollande, il était président général de la Corrèze. Ça ne prépare pas aux affaires internationales quand même. Et Sarkozy, effectivement, vous l'avez décrit, c'était un type qui était un faiseur, qui effectivement se croyait à la pointure des Américains, et puis en fait il a fait des décisions qui étaient catastrophiques. Regardez l'affaire de Libye. L'affaire de Libye, BHL le convainc, il dit j'en viens, j'ai vu, je connais les gentils, je connais les méchants, on ne peut pas ne pas. On va avoir cette résolution onusienne d'interdiction de survol aérien pour empêcher Kadhafi d'utiliser son aviation, et puis en fait il va donner instruction de bombarder, alors que ce n'était pas le mandat international. Et BHL, qui était à l'origine de cette catastrophe, de ce pays qui aujourd'hui encore est dans une situation de guerre civile, 2 ans après la guerre, dit tant mieux si j'y suis pour quelque chose. Donc vous voyez qu'on est dans un système où le mécanisme décisionnel de ces gens-là qui entourent les présidents, ce que j'ai appelé le complexe Mitterrand intellectuel, sont des gens qui sont totalement irresponsables. On a des intellectuels téfals, c'est-à-dire des gens sur lesquels aucune critique n'accroche. Bon, ben, malheureusement, je ne sais pas comment on peut s'en débarrasser.
Cette position diplomatique pro-israélienne actuelle menée par enfin qui est celle d'Emmanuel Macron, diriez-vous mais j'en doute de moins en moins, mais j'en doute de plus en plus, pardon, diriez-vous que cette position diplomatique s'inscrit dans les intérêts de la France au Moyen-Orient? Idrissa Berkane. Idrissa Berkane.
Alors, déjà, je veux souligner toute la justesse de ce qu'a dit Pierre Conessa, hein, c'est-à-dire que là, j'ai voulu forcer le trait, mais c'est vrai que quand on est dans le renseignement, il faut surtout pas partir du principe qu'on sait ce que fait l'adversaire. Ça commence par là, il y a le brouillard de guerre. Et puis, enfin, un type du renseignement qui dirait « je sais exactement ce que pense la CIA » et je lui ai parlé à la machine à café avant-hier, ce serait quelqu'un qui n'aurait pas non plus une longue carrière. Juste, c'est vrai qu'au passage, ce genre d'accusation contre la CIA, elle venait directement de Giulio Andreotti, qui, dans le cadre de ses nombreuses affaires, Tangentopoli, etc., le fait qu'il ait sauté peu de temps après avoir balancé Gladio, parce que ce qui lui aurait été reproché, c'était ça, d'avoir balancé Gladio sans avoir consulté personne. Donc Gladio, c'était le réseau secret d'influence de la CIA en Italie. Giulio Andreotti avait dit lui-même: je pense que c'est une base vengeance de la CIA. Mais c'est clair qu'à partir de là, c'est moi qui extrapole et ça n'engage que moi. C'est absolument pas. C'est une opinion, c'est pas un rapport factuel. Là, voilà, j'ai vu la CIA, je lui ai parlé avant-hier. Et fermons cette parenthèse. Maintenant, c'est pas tellement. La France n'a pas en réalité un alignement diplomatique avec Israël. Elle a un alignement diplomatique avec les États-Unis. Et c'est de là que découle l'alignement diplomatique avec Israël, en réalité. Après, alors, on pourrait parler des diasporas. La plus grande diaspora juive au monde, c'est les États-Unis, avec New York en particulier. Et là, c'est 7 500 000. Et puis, ensuite, la deuxième plus grande diaspora, c'est la France. Et c'est de l'ordre de 500 000. C'est quand même beaucoup moins. Mais ça crée une influence politique, et c'est ce qui avait été rappelé par ce député dont le nom m'échappe, Meir Habib. Voilà, Meir Habib, qui avait dit dans une interview, voilà, on a 60 députés qui peuvent être que sensibles à la diplomatie israélienne. Mais vraiment, l'alignement, là, ça vient surtout du fait que la France est alignée sur les États-Unis. Et que les États-Unis, bah, ils ont envoyé 2 porte-avions. Blinken souffle un peu le chaud et le froid, mais quand même, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de sanctions majeures. Et on se retrouve avec le problème fondamental de la situation que vous avez évoqué au début, hein, c'est que c'est polarisé sur les attentats du 7. Alors là aussi, je peux me permettre d'être cash et direct. Si je prends le point de vue de la cause palestinienne, le Hamas l'a fait reculer de 40 ans, au moins de 40 ans. L'OLP, le Fatah, il leur avait fallu 40 ans pour comprendre quelque chose de très important, qui est que Israël ne peut être contesté militairement dans la région. Il n'y a pas de scénario, même depuis la crise de Suez, où Israël a été battu militairement, sauf 2006 avec le Hezbollah quand ils sont rentrés au Liban. Là, oui, il y a eu une sacrée déculottée. Mais ce n'était pas une contestation de l'existence même d'Israël ou de sa nature d'État dans la région. C'était vous ne pouvez pas aller au Liban, vous allez prendre trop de pertes. Et en plus, vous avez une armée qui craint davantage les pertes. Donc c'est tout. Mais c'était en quelque sorte un statu quo. D'ailleurs, ne serait-ce qu'en termes de pertes des deux côtés, c'est le Hezbollah qui a pris le plus de pertes en 2006. Mais bon, ça, ce n'était pas le sujet. La victoire politique a été présente. Tout ça pour dire que la seule fragilité d'Israël, si on prend le point de vue de la cause palestinienne, elle est politique. La crise de Suez, Israël la perd politiquement, pas militairement. Et je vois beaucoup de gens qui citent le FLN en ce moment. Alors pas le FLN original, qui est le FLN vietnamien, hein, mais le FLN algérien, qui est celui qu'on connaît le plus maintenant en France. Eh bien, oui, le FLN, bah, rappelons les choses, il n'avait absolument pas gagné militairement. La guerre d'Algérie n'était pas gagnée militairement, elle n'a jamais été gagnée militairement, de près ou de loin. Mais elle a été gagnée politiquement. Et c'est ce qu'avait dit un général vietnamien à Westmoreland, à Paris, dans la guerre du Vietnam. Westmoreland lui avait dit, de façon un peu arrogante, lui avait dit, mais vous nous avez jamais battus sur le terrain. Et le général vietnamien, dont le nom m'échappe, lui avait répondu, oui, c'est peut-être le cas, mais c'est complètement hors sujet. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est de vous battre politiquement. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Or, le Hamas, par son opération du 7, a cru faire un coup politique de génie. C'est un coup politique absolument merdique. Alors, sauf si il voulait devenir à la mode dans tout le monde musulman. Ça, oui, c'est vrai. Le Hamas, aujourd'hui, tout le monde musulman, jusqu'en Indonésie, vous savez, il y a un hôpital indonésien à Gaza, hein, qui a été bombardé d'ailleurs. Là, oui, le Hamas, il est sur la carte. La génération TikTok pense que ce sont eux les héros, etc. Alors que ceux qui menaçaient vraiment la situation, ou en tout cas qui pouvaient marquer un essai dans la cause palestinienne, c'était le Fatah. C'était le Fatah. Et ils ont été à deux doigts de le faire avec les accords d'Oslo au milieu des années 90. Et c'est bien pour ça.
Quelle est l'alternative d'Idrissa Berkane? Parce que cette phase s'est soldée par un échec, cette phase de finalement le Fatah qui avait déposé les armes, hein, Yasser Arafat avait déposé les armes pour négocier, trouver une solution politique et diplomatique, les accords d'Oslo, vous l'avez rappelé, mais tout cela s'est conclu par un échec retentissant, puisque la colonisation n'a jamais cessé, les Palestiniens n'ont pas obtenu le respect des clauses de l'accord d'Oslo. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas devenu un contre-exemple, cette solution? Et quelle est l'alternative pour les Palestiniens aujourd'hui, politiquement?
Ça dépend de ce qu'on appelle un échec. C'est-à-dire que le capital politique de la cause palestinienne n'a fait qu'augmenter avec les accords d'Oslo. D'abord, on a Yasser Arafat qui reçoit le prix Nobel de la paix. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et le capital politique de la cause palestinienne n'a fait qu'augmenter. Et j'en veux pour preuve le fait que Netanyahou lui-même a dit: Je ne veux surtout pas avoir le Fatah comme interlocuteur. Moi, j'adore avoir le Hamas comme interlocuteur. Ça a été révélé par Haaretz, il l'a dit dans une conférence. Plusieurs témoins l'ont confirmé. Il dit, mais j'adore avoir le Hamas. Le Hamas, c'est l'interlocuteur parfait. Ils sont pas crédibles du tout. Politiquement, c'est très facile de montrer que ce sont des barbares. Et en tout cas, même en forçant le trait, on n'a pas beaucoup besoin de forcer le trait. On va pouvoir montrer dans tous les médias occidentaux que ce sont des barbares. Certes, les médias des BRICS vont avoir une opinion différente, mais dans les médias occidentaux, on va pouvoir le faire sans problème. Alors que dire que le Fatah, ce sont des barbares, ça, c'est plus possible. C'est quelque chose qui n'est pas possible politiquement. Et ça leur donne un capital politique redoutable, même si le Fatah est corrompu, même si ce n'est pas une machine de guerre politique, c'est un machin gérontocrato corrompu. Ok, mais c'est infiniment mieux que le Hamas, et c'est en tout cas ce que Netanyahou a analysé. Et donc, il faut se rappeler que jamais la cause palestinienne n'a progressé militairement. Enfin, je ne sais pas si vous voulez regarder tranquillement. Alors, les frontières de 47, elles étaient inacceptables des deux côtés. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, les Palestiniens aimeraient bien avoir les frontières de 47. Bon, il y a eu une guerre, ces frontières ont été perdues. À chaque fois que la cause palestinienne prend les armes en Israël, elle perd ses frontières. Et elle les perd un peu plus à chaque fois. Que ce soit donc en 47. Bon, Suez, ça a été gagné que politiquement, j'insiste. Hein, c'est parce que les Russes et les Américains sont intervenus et ont dit politiquement ce que vous faites est inacceptable, parce que sinon, sur le plan militaire, la France, le Royaume-Uni et Israël avaient complètement gagné, dominé la situation. Mais c'est vraiment la victoire politique qui a permis de faire gagner Nasser, ce qui était un coup de poker assez incroyable. Et puis après, bon, 67-73, à chaque fois qu'au Moyen-Orient, on convoque une ordalie militaire contre Israël, les frontières palestiniennes sont amputées. à chaque fois un peu plus allemand. Et donc, si Netanyahou, qui connaît très bien l'histoire d'Israël, a bien fait cette voie, il se dit, bah, il n'y a rien de mieux que de convoquer une nouvelle ordalie militaire contre nous. Ah bah ça tombe bien, il y en a une qui vient d'arriver, elle est toute fraîche, et puis bon, maintenant, elle va me permettre de devenir un héros alors que j'étais à deux doigts de finir en tôle, c'est Netanyahou qui parle, à savoir d'évacuer Gaza et de foutre une pression colossale aux Égyptiens pour qu'ils acceptent les Gazaouis, ce qu'ils ne peuvent pas faire parce que frères musulmans d'une part et trahison de la cause palestinienne d'autre part. Mais n'empêche, si je leur mets suffisamment la pression, ils vont devoir absorber Gaza. Et en effet, on pourra récupérer le gaz et faire le canal Ben Gourion, qui est un vrai sujet et qui ne peut pas contourner Gaza. C'est vrai que si les Israéliens veulent faire le canal Ben Gourion, ça doit passer par là. Donc voilà, le Hamas, c'est l'ennemi rêvé pour Netanyahou. Il l'a dit à plusieurs reprises et à Haaretz le lui a suffisamment reproché. Il y a encore un peu une presse d'opposition en Israël. Et clairement, à chaque fois que les Palestiniens ou que la cause palestinienne a essayé de progresser militairement, bah, elle a perdu du territoire. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut progresser, il faut progresser politiquement. Et pour conclure juste, désolé d'avoir monopolisé la parole, la cause palestinienne aurait bien plus gagné à armer tout le monde d'une caméra et de téléphones satellites et de réseaux de presse, de forcer Israël à une situation de guerre TikTok, ce que les Ukrainiens avaient beaucoup fait d'ailleurs avec la Russie, ce qui fait que la Russie a dû lever le pied beaucoup plus, et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a plus de civils morts en effet en Palestine que dans toute l'Ukraine, ce qui est quand même un truc de dingue. Et la cause palestinienne aurait bien plus bénéficié de cela, que chacun soit équipé d'un très bon appareil photo, d'un très bon micro et d'une technologie d'uploading immédiat pour pas que les images soient perdues. Ça aurait fait progresser la situation bien plus que n'importe quelle attaque à main armée.
Très bien, monsieur. Alors, on va passer maintenant sur le second thème de ce débat, de cet entretien, donc la scène africaine. Alors, autre continent, autre déboire. Depuis son second mandat, le président Emmanuel Macron a dû procéder entre 2020 et 2023 à un retrait militaire et politique forcé de la présence française dans plusieurs Africains, dans plusieurs pays africains, parmi lesquels le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les changements de régime, putsch et luttes d'influence dans le continent africain se sont largement faits au détriment de la diplomatie française durant cette période. Et la fièvre anti-française n'en finit plus de se propager dans le continent, y compris au Sénégal, qui restait une zone de stabilité relative dans la région. Alors ce retrait et cette perte d'influence successive et pour le moins humiliante de la diplomatie française va-t-elle entraîner un effet domino dans ce qu'il reste de la zone d'influence française en Afrique? Pierre connaît ça.
Oui, c'est une situation géopolitique effectivement très nouvelle. Elle est très nouvelle parce que comment dire, le premier incendie s'est propagé sur la zone sahélienne. Alors, la zone sahélienne avait ceci d'original, dans une autre dimension, c'est que c'était le premier axe de diffusion de la politique religieuse de l'Arabie Saoudite, qui à l'époque des années 60-70 avait comme principal ennemi le socialisme arabe. C'était l'époque où Nasser disait les Arabes feraient mieux de s'occuper des pays du Golfe plutôt que d'Israël. Et le socialisme arabe représentait à l'époque, presque dans toutes les grandes capitales, hein, en Algérie, ou en Syrie, en Irak, etc., a été considéré comme l'Arabie Saoudite, par l'Arabie Saoudite comme une menace. Bon. Et c'était l'époque où, encore une fois, en plein Est-Ouest, si vous voulez, on considérait que ceux qui contestaient l'ordre international pouvaient être que des pro-soviétiques. Donc on n'a pas soutenu cet effort de modernité, on a au contraire laissé les Russes s'installer. Bref. Donc l'axe de pénétration de la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, ça a consisté à essayer d'empêcher la diffusion du socialisme arabe vers le sud de l'Afrique. Et ce qui est très étonnant, c'est que justement, comment dire, l'Arabie Saoudite avait fait une espèce de contre-société, exactement l'antisymétrique, si vous voulez, de ce que faisait Nasser. Quand Nasser créait la Ligue arabe, l'Arabie Saoudite créait la Ligue islamique mondiale. Quand les Irakiens, les Égyptiens attiraient des cadres à l'université Al-Azhar, l'Arabie Saoudite crée la Ligue, crée l'université islamique de Médine. Et la différence essentielle, c'est que l'université islamique de Médine, les gens avaient une bourse et en plus étaient logés, donc ce qui faisait une grosse différence. Donc ils ont attiré pas mal de gens qu'on a ensuite retrouvés dans les pays africains. Et en particulier, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le Mohamed Diko, qui était le grand imam de Bamako, qui va effectivement lui-même refuser de condamner l'attentat contre le Radisson Blu, dans lequel vont être tués des Occidentaux. C'est-à-dire que là, on est dans une espèce de sécession qui est tout à fait originale, à laquelle les Français ne s'attendaient pas du tout, parce qu'on n'est plus sur les critères africains et France-Afrique, on est sur des critères tout à fait différents. Et effectivement, on a le sentiment aujourd'hui que, si vous voulez, cette politique saoudienne a réussi, en tout cas, à expliquer qu'il fallait évincer la France. Alors, cela dit, je ne suis pas dupe, si vous voulez, de la dénonciation de la France, parce que, vous savez, c'est comme dans les pays arabes quand on critique le rôle d'Israël, mais surtout en ne se préoccupant pas de ce qu'il faut faire pour faire son propre développement. Donc, on a effectivement dans les pays africains l'arrivée des Russes, à qui on va dire oui, bien, venez, bienvenue, bienvenue, mais ensuite les Russes, moi, je leur souhaite beaucoup du plaisir, si vous voulez, pour s'occuper des pays africains, parce qu'on est dans des
On va y revenir
situations.
sur les causes, mais pour vous, il n'y a pas de risque d'effet boule de neige par rapport à ce qui s'est passé donc au Mali, au Niger et au Burkina
Non,
Faso, dans d'autres pays?
il y a un risque de boule de neige qui, de toute façon, ne peut pas couvrir la totalité du continent. Hein. Ça correspond effectivement à la limite de pénétration de l'islam, puisque c'est l'argumentaire que moi je trouve le plus significatif. Quant à l'arrivée des Russes, vous savez, pour le résultat qu'on a de 50 ans de politique de France-Afrique, je leur souhaite bien du plaisir, parce qu'ils vont découvrir qu'est-ce que c'est que de travailler avec les Africains. Donc, moi je vous avoue, beaucoup moins inquiet. Puis alors, une fois, si vous voulez, la
C'est quoi les
France-Afrique.
difficultés de travailler avec les Africains, justement? Quelles sont ces difficultés?
Un extraordinaire taux de corruption, d'abord, parce qu'effectivement, l'argent étranger est quand même celui qui est le plus facile à dériver, si vous voulez. L'absence totale de plan de développement, c'est-à-dire on attend, si vous voulez, une règle internationale. Alors on explique que c'est les Occidentaux qui exploitent les ressources, mais ce n'est pas vrai partout. Regardez le cas du Nigeria. Le Nigeria est un pays richissime qui est dans une crise profonde. Le Congo, le plus grand pays du continent, est un pays dans lequel se sont développées 120 milices. Ce n'est pas des milices instrumentalisées par les autres. Donc, encore une fois, si les Russes veulent s'en occuper, très bien, moi je leur souhaite la bienvenue. Mais vous voyez comment on voit les choses à partir d'ici, on ne les voit pas à partir de là-bas. Bon, ben écoutez, on reparlera de tout ça, si vous voulez, dans 10 ans. Mais, vous savez, moi je me souviens, encore une fois, quand j'étais au ministère de la Défense, dans les années 94, ou non, c'était juste avant le génocide, je fais un papier pour expliquer que je ne comprenais pas la politique française au Rwanda. Bon, je le faisais de l'intérieur, ce n'était pas un document public. Je me fais engueuler par le cabinet militaire qui me dit, quand on ne connaît pas un sujet, on n'écrit pas dessus. Bon, peu de temps après commence le génocide. Aucun des mecs qui avait défendu la politique française au Rwanda n'a sauté. Ils sont tous restés. Et même après le génocide. Donc vous voyez, on est dans une situation absolument étonnante. C'est que ces gens-là se considéraient comme gestionnaires de l'Afrique, avec le résultat dont on voit le désastre aujourd'hui. Mais ils vont rester là, si vous voulez, comme le Titanic est joué, quoi. Donc le système n'a pas d'autocensure, n'a pas de bouleversement. Peut-être Macron va-t-il changer la chose parce qu'il n'a pas de passé africain. C'est ça la différence.
C'est son discours de 2017, hein, d'ailleurs, hein, où il avait mis en exergue cette dimension-là. Mais
Oui, oui.
aujourd'hui, on lui reproche justement de n'avoir pas respecté la ligne de ses discours. Voilà.
Oui, mais
Idrissa
enfin, cela
Berkane,
dit,
oui?
vous avez remarqué qu'en France, quand on n'a rien à dire, on dit on critique Macron. Même s'il disait je vais jouer au PMU demain, on critiquerait le PMU, je voulais. Donc, faut atteindre les limites, si vous voulez, de cet exercice politique français, parce qu'il n'y a aucun parti politique qui propose des solutions alternatives. Si on pouvait exporter nos hommes politiques, ce serait vachement bien.
Idrissa Berkane, sur la même question, est-ce qu'il faut s'attendre à un effet domino par rapport à ce qui s'est passé au Mali, au Niger et au Burkina Faso concernant la perte d'influence de la diplomatie française en Afrique?
Bah, là où c'est passé à deux doigts, c'était le Tchad, parce que les Russes ont quand même mis une sacrée pression sur ce pays. Maintenant, la situation au Moyen-Orient a donné un vrai répit au Tchad, pour l'instant. Et on sent que les diplomates tchadiens soufflent un peu là, que ça va mieux. Pour moi, celui qui a tout compris, c'est Bernard Lugan, hein, et c'est pas parce qu'il est de droite qu'il faut pas l'écouter. Quand il parle d'ethnomathématiques électorales, donc c'est ce que Pierre Conessa avait décrit pour l'Irak, hein, un homme, une voix, bah, quand on a un pays multiethnique, en plus avec des chiites et des sunnites, c'est la meilleure façon de faire péter la baraque. Et en Afrique, c'est pareil. Or, il y a l'ethnomathématique électorale, il y a vraiment ce que disait Bernard Lugan, c'est-à-dire en Afrique, l'ethnie n'explique pas tout, mais rien ne s'explique sans l'ethnie. C'est exact, que ce soit au Sénégal, les Peuls, les Toucouleurs en particulier, etc. Et puis en plus, au Sénégal, après, on a les confréries soufis, donc on a les Tidjanes et les Mourides, qui ont un rôle colossal dans le pays, qui explique une très grande partie de sa stabilité par ailleurs, outre le fait qu'il est essentiellement monoreligieux, pas monoethnique, mais monoreligieux. Donc, il y a une pression. Alors maintenant, ce qu'a décrit Pierre Conessa sur les problèmes de travailler avec les États africains, en fait, les Russes avaient une sacrée école en la matière pendant la guerre froide. Et ils ont d'abord une très bonne école d'ethnographie, elle est réputée dans le monde entier. La nuance ethnographiste, pardon, des Russes est réputée dans le monde entier, et encore aujourd'hui, les Africains la respectent énormément. Et puis après, ils ont le pragmatisme Wagner qui vient par-dessus. C'est-à-dire que la corruption, bon, pas Poutine, il en bouffe au petit-déj, la corruption. C'est l'histoire de la Russie, quoi. C'est les boyards. Et le tsar, sans les boyards, il est mort. Alors, soit on a des tsars qui égorgent les boyards comme Ivan le Terrible, soit on a des tsars qui se font égorger par les boyarim, comme le père du tsar de toutes les Russies sous Napoléon, qui a été buté sous ses yeux, par les boyards, qui n'étaient pas contents. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle le tsar Alexandre a refusé d'exécuter le blocus continental, parce qu'il savait très bien que s'il s'opposait aux intérêts commerciaux des oligarques de l'époque, qui étaient donc les boyards, eh bien, il allait sauter. Donc, ça, quand on est dans la Russie contemporaine, oh, c'est standard, quoi. Oui, il y a des oligarques corrompus. Bon, bah, via Wagner, on sait gérer ça très bien. Wagner, ils ont fait leur oprichnina, ils ont des méthodes très expéditives pour ça. Et la corruption, ça leur fait pas peur. Donc, pour le coup, j'ai l'impression de ce que je vois, qui est forcément, il y a des trous dans la raquette, c'est forcément partiel. Mais j'ai l'impression que les Russes ont acquis une vraie manière africaine. Et qu'ils sont là pour durer. Et puis, ils ont cette force de frappe dont je vous ai parlé au tout début, qui est Rosatom. Rosatom, aujourd'hui, c'est la société nucléaire la plus intégrée verticalement. Ils fournissent des centrales clés en main, avec la totalité du matériel, des moyens, des logiciels, de la sécurité et du combustible. Et ils arrivent avec un abonnement combustible. Et c'est les seuls à pouvoir tout exécuter. Et du coup, ils peuvent tout financer. Ils peuvent arriver en disant, bon, allez, vous nous devez 23 milliards, on vous installe une centrale. Bon, ça, c'est une force de frappe qui est colossale, et qui pour l'instant sert à d'autres pays qu'en Afrique, parce que c'est vrai qu'avant d'installer des centrales nucléaires en Afrique, partout, c'est en Égypte, ok, c'est déjà le cas, mais c'est pas quelque chose qui va se faire après-demain non plus, mais c'est une force de frappe importante quand on parle à un chef d'État, de pouvoir lui dire, je vais pouvoir vous installer des infrastructures énergétiques en vous passant du FMI, en vous passant de la Banque mondiale et sans avoir à respecter les accords 1, 2, 3. Donc les accords 1, 2, 3, c'est les accords du nucléaire américain, mais en fait, tout autre que les Russes est obligé de respecter les accords 1, 2, 3 parce qu'il y a des pièces américaines dedans. Donc, si c'est les Coréens qui fournissent une centrale, il faut signer les accords 1, 2, 3 américains. Donc dans tous les cas, c'est pas possible en fait. C'est soit on bosse avec les Russes, soit on est... Et ça, c'est vraiment, j'insiste, c'est une force de frappe très importante à l'horizon 2036, qui est l'horizon du moment où Poutine quittera le pouvoir. Donc, puis après, il y a un troisième point, c'est l'aspect culturel. La communauté d'idées culturelles, la communauté de vues culturelles est beaucoup plus grande avec Poutine. Parce que le wokisme, ça passe pas en Afrique, parce que envoyer un ambassadeur représentant de la cause LGBT au Cameroun, ça marche pas, quoi. C'est perçu comme du néocolonialisme, c'est perçu comme de la mission civilisatrice 2.0. C'est quelque chose qui a des conséquences importantes, qui se retrouve sur Internet, qui se retrouve sur Facebook, qui est le réseau social dominant en Afrique. Et bah là, les Russes jouissent d'un très grand prestige, d'un point de vue culturel, pour ça. Et ça fait que quand les Russes proposent un partenariat, les populations ne gueulent pas. Alors que maintenant, quand la France propose des partenariats, depuis la fin de la Chiraquie, les populations gueulent bien davantage. Et on le voit avec le Sénégal, où il y a cet aspect-là qui est utilisable par l'opposition aussi.
Alors, précisément, face à ce fiasco diplomatique, un rapport français de la mission d'information parlementaire avait été présenté le 8 novembre dernier en commission des affaires étrangères pour analyser précisément les causes de ce retrait, de ce recul de la France. Dans ce rapport, plusieurs causes à l'origine de ce relatif divorce franco-africain ont été mentionnées. Je vous propose d'évoquer un certain nombre de ces causes et d'avoir votre point de vue, votre regard, votre analyse là-dessus. Alors, parmi les causes militaires, parce qu'il y a les causes militaires et les causes politiques, la principale cause militaire, le militaire, précisément, a supplanté la diplomatie. Notamment, la gestion trop sécuritaire de la lutte contre l'ACMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, a prolongé la présence militaire de la France dans des pays où elle aurait dû se montrer pionnière en matière d'aide au développement, selon le dogme bien connu de la coopération civilo-militaire. Donc l'équilibre n'a pas eu lieu et le militaire a eu raison de la politique. Qu'est-ce que cette suprématie du militaire sur le politique nous révèle, selon vous, sur la vision de l'action française en Afrique? Pierre Conessa.
Oui, rappelez-vous qu'à la création de la, comment dire, de la politique africaine du général de Gaulle, il y avait évidemment cette carte stratégique qui était, paraît-il, un atout de la France, qui était cette capacité à gérer les questions de sécurité en Afrique. Bon. N'oubliez pas qu'on était dans l'Est-Ouest et que toute zone comme celle-là devait risquer un jour ou l'autre d'être instrumentalisée par les Soviétiques. Bon, et donc la France garantissait une capacité militaire. Ça a donc gardé toujours cette espèce d'emprise, ou en tout cas cette importance des militaires dans la France-Afrique. Et évidemment, on ne peut pas dire que le résultat soit très positif, et encore moins pour ce qui est de l'aide au développement, puisque depuis l'époque où effectivement on pensait que l'aide au développement allait amorcer le décollage économique de l'Afrique, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de catastrophe à peu près générale. Bon. Deuxième remarque, le découpage postcolonial des États africains, notamment de tout ce qui a été le découpage de l'AOF, AEF, est très intéressant parce que ça a consisté à faire des pays en les découpant en nord-sud, comme ça. Et donc, le cas le plus intéressant, celui du Tchad, parce qu'une fois le ministre nous avait demandé, un des ministres, je ne sais plus lequel, nous avait demandé, à l'époque où j'étais à la délégation des affaires stratégiques, avec une question qui était: comment peut-on résoudre la crise tchadienne? Donc, tu vois, on était en 90, ça faisait seulement 25 ans que ça durait. Et on avait transformé la question en disant: pourquoi depuis 30 ans nous ne cessons de résoudre la crise tchadienne? On avait renversé complètement la chose. Pourquoi? Parce que le découpage de ces États, et c'est vrai au Mali, c'est vrai au Niger, c'est vrai au Tchad, ce sont des découpages nord-sud qui unissent dans un même pays des réservoirs esclaves, des royaumes esclavagistes et des trafiquants d'esclaves. Les Toubous sont des trafiquants d'esclaves. Bon, ça ne vous fait pas une unité nationale. Vous pouvez toujours avoir une capitale, ça, ce n'est pas un problème, mais ça ne vous fait pas un pays. Bon. Et donc, ce que vous avez aujourd'hui, les mêmes fractures, vous les retrouvez avec la pénétration, notamment sur la région de Bamako et sur le Niger et sur la République centrafricaine, c'est-à-dire, effectivement, vous avez une contestation qui est essentiellement axée d'ailleurs sur les Touaregs, hein, sur cette population dissidente par nature, et face à laquelle, moi, je souhaite beaucoup de plaisir aux Russes pour s'en occuper. Donc, il y a un moment, il faut reconnaître qu'il y a un échec. Moi, je l'ai dit depuis longtemps qu'il y a un échec de la politique africaine, mais ça met en menace, ça met comment dire, en péril tellement de petits métiers qui sont des gens dont le bilan est strictement négatif. Encore une fois, il n'y a pas un seul pays africain. Le seul pays africain qui aujourd'hui a fait un décollage économique, c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, pour une raison assez simple, c'est que le génie du président, comment s'appelle-t-il?
Nelson
Mandela.
Mandela. Ah,
Oui,
à
Mandela,
l'époque, hein, je parlais.
c'est d'avoir pensé que justement il fallait maintenir les cadres africains alors qu'ils partaient de la société la plus raciste et la plus séparatiste qu'on pouvait imaginer. Et donc il a eu ce génie de se dire, il y a un savoir-faire de gens qui finalement peuvent être considérés comme des Africains, entre guillemets. Et donc le seul pays qui aujourd'hui assure une certaine stabilité, un décollage économique, c'est celui-là. Bon. Partout ailleurs, vous avez eu des chefaillons qui étaient plus ou moins soutenus par les anciennes puissances coloniales ou par Moscou, etc., qui n'ont pensé qu'à une seule chose, c'est à se beurrer. Rappelez-vous quand même le pillage du Congo. Hein, Mobutu, c'était une des plus grosses fortunes mondiales. Bon, donc encore une fois, le bilan est négatif. Le bilan de la politique française en Afrique est négatif, mais encore une fois, vous expliquez ça à des gens qui veulent pas le croire. Ils en vivent. Ils en vivent. Donc voilà, malheureusement, les Africains ne peuvent pas se prendre en main, puisqu'ils sont toujours à accuser quelqu'un d'autre, ou alors toujours sous tutelle de quelqu'un d'autre.
Alors c'est très paradoxal puisque 15,5 milliards d'euros ont été accordés par l'Agence française de développement entre 2020 et 2022. Donc Emmanuel Macron avait souhaité justement soutenir une politique de développement de la société civile. Mais il s'est trouvé, donc tout ça est tiré de ce rapport parlementaire hein, que j'évoquais, il s'est trouvé que finalement 30% des financements ont été consacrés à des grands projets d'infrastructure, là où les Africains auraient eu besoin d'investissements dans l'information ou de petits projets réalisables plutôt à court terme. Voilà, donc ça c'est ce qui ressort de ce rapport. Je voulais qu'on aborde la question de la Libye, hein, parce que vous en avez déjà parlé brièvement au début de cette émission. On peut pas ne pas évoquer les conséquences de l'intervention militaire, alors qu'il était une coalition, mais où la France a joué comme un rôle important en Libye, donc en 2011. Une intervention qui a durablement déstabilisé la région et qui a joué un rôle notamment dans la crise malienne en 2013. Vous évoquiez, Pierre connaît ça, le rôle des tribus Touareg, qui étaient justement en Libye, qui étaient intégrées à l'armée de Kadhafi. Et finalement, après la chute du régime, il y a eu un éparpillement de ces troupes-là. Donc est-ce que vous pouvez évoquer, Idrissa Berkane notamment, les conséquences justement de cette intervention en Libye, de cet effondrement de la Libye? Quelles sont les conséquences jusqu'à présent de cet effondrement, ou de cette chute de régime plutôt?
Les conséquences se font ressentir jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire même jusqu'à la victoire russe en Ukraine. Parce que là aussi, soyons clairs, les Russes gagnent en Ukraine, puis ça y est, c'est plié, ils ont gagné. D'ailleurs, Avdiivka, qui n'avait pas bougé depuis 2014, ils sont en train de la prendre. Or, comment on va de la Libye à l'Ukraine? Bah, on a la stratégie diplomatique du plus un pas en arrière avec Bachar al-Assad, où les Russes voient ce qui se passe quand Kadhafi tombe, et ont vu tout le reste, ont vu l'Irak, etc., puis de l'Irak jusqu'à Kadhafi. Donc il y a eu bien sûr les printemps arabes entre les deux, où les Américains n'étaient pas à l'initiative, mais ont fini par tirer les marrons du feu. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'est pas eux qui l'ont créé au départ, mais ils ont très rapidement pu en tirer les marrons du feu. Et puis on avait vraiment le centre de l'œuvre intellectuelle de Pierre Conessa, qui est le complexe militaro-intellectuel. Parce qu'en effet, pour la Libye, c'est l'homme à la chemise Charvet qui arrive et qui dit, voilà, j'ai tout vu, ça va être une catastrophe, etc. Puis vraiment, les gens le croyaient, quoi, à l'époque. Or, bon, bah, ça a détruit le pays, il y a des marchés aux esclaves maintenant. Donc on nous parlait de la démocratie, de tout ça, d'améliorer la situation en Libye. Bon, il y a des marchés aux esclaves. Les frères musulmans contrôlent la Tripolitaine et on a une crise migratoire sans précédent. Et les Turcs, dans tout ça, peuvent là aussi l'utiliser comme levier parce qu'ils ont pris un pouvoir en Libye colossal qui, pour le coup, doit être mis au crédit de la politique étrangère d'Erdogan. Hein. Il a vu un point d'entrée et il l'a saisi. Donc, à partir de ce moment-là, à l'échelle internationale, les Russes se sont dit avec la Syrie, c'est le cas libyen qui a fait dire aux Russes, plus un pas en arrière. À la Staline. À partir de maintenant, on fusille quiconque recule. Et donc, double veto russo-chinois sur la Syrie. Et Deus ex machina incroyable, Bachar al-Assad est encore au pouvoir aujourd'hui. Ce qui est un échec absolu de la politique étrangère américaine et israélienne à l'époque, il faut bien le dire aussi. Et son fils, à Bachar al-Assad, il est fraîchement diplômé de l'Université d'État de Moscou. Donc maintenant, ça y est, retour, guerre froide 2.0. Un pays baathiste qui était traditionnellement armé par la Russie continue à être équipé par la Russie, soutenu par la Russie. Et aujourd'hui, ce sont les Russes qui ont montré au monde entier qu'ils étaient capables de protéger quelqu'un. Et c'est ce qui a permis à Mohamed Ben Salman, par exemple, de faire un gros bras d'honneur aux États-Unis à plusieurs reprises. Bah, il ne se serait certainement pas permis de le faire si Bachar el-Assad avait sauté, par exemple. Il ne serait pas permis de rentrer dans les BRICS, il ne se serait pas permis de faire tout un tas de choses, d'évoquer des contrats pétroliers dans les 5 R, là, rouble, roupie, rand, et renminbi et réal brésilien. Il ne se serait pas permis d'évoquer ce genre de conneries si, voilà, il n'y avait pas eu la preuve que les Russes sont capables de faire en sorte que le fiasco libyen soit le dernier. Et pour l'instant, ils ont montré qu'ils étaient crédibles en la matière. Et puis, pour le lien avec l'Ukraine, c'est quand même à cause du fait que les Russes ont eu besoin, pour sauver la peau de Bachar el-Assad, de Sébastopol. Alors, on a bien vu qu'ils ont renvoyé l'amiral Kouznetsov, et puis c'était vraiment la flotte de la mer Noire qui a permis de mettre la pression, le petit supplément de pression qui manquait, hein, comme on dit, 100 000 tonnes de diplomatie, pour sauver Bachar el-Assad. Et donc, très peu de temps après, il y a eu encore un coup en Ukraine, et les Russes ont récupéré la Crimée parce qu'ils avaient vu venir le coup. Donc, si on revient maintenant aux conséquences de la Libye pour nous, les Européens, enfin, eh bien, c'est l'immigration massive, c'est la déstabilisation de la région, c'est le Tchad, c'est la pression colossale qui a été mise sur le Tchad, avec en effet des États multiethniques où on a mis dans le même État les mêmes frontières, le même drapeau, une minorité démographique anciennement esclavagiste et radieuse, et une majorité victime qui ne peut que gagner par les urnes. Et on s'est amusé à compter les points et à se dire que ça marcherait très bien de faire les choses comme ça. Et on voit que ça ne s'est toujours pas réglé, et que tant qu'on n'aura pas fait d'innovation politique majeure, avec des nouveaux moyens de représentation, des innovations de régime, quoi, qu'on invente des nouveaux régimes adaptés. En fait, parce que habiller, c'est comme, je sais pas moi, habiller un Amérindien avec un kilt, quoi. C'est pas forcément la bonne solution. On a habillé les États africains avec des régimes politiques qui n'étaient pas adaptés à leur démographie, à leur structure, et pas à leur culture, hein. Je cherche pas à dire qu'il y a une notion de supériorité ou d'infériorité culturelle, c'est pas du tout le sujet. Mais le sujet, c'est pas adapté à la démographie. Et ça, tous les spécialistes de l'école des Annales le savaient bien avant, type Emmanuel Todd, etc. Et d'ailleurs, Emmanuel Todd, pour conclure, il avait vu venir les printemps arabes. Il a fait un très bon petit bouquin qui s'appelle Allah n'y est pour rien, où il analyse la structure patriarcale de la famille arabe, en particulier au Maghreb. Parce que bon, arabo-amazigh, hein, savoir quand même tout le Maghreb, c'est essentiellement berbère au départ, mais ça parle arabe. Et où il avait vu venir les printemps arabes et personne ne l'avait écouté. Donc voilà comment je vois la Libye. Aujourd'hui, elle peut être. D'abord, les Américains ne veulent pas la stabiliser, on va commencer par là. Il me semble que
Pour quelle
ça est.
raison? Pour quelle raison?
Parce que rebels cause no troubles, donc les gravats ne causent pas de tracas. Et c'était la politique en Somalie, c'était la politique dans toutes les régions un peu stratégiques. C'est mieux d'avoir le chaos que d'avoir un pays unifié. Et de toute façon, ce n'est pas les Américains qui en subissent les conséquences. Le chaos libyen, les Américains en subissent aucune conséquence aujourd'hui, sauf le massacre de leur ambassade quand même, hein, dans laquelle voilà, les implications de ou la responsabilité de Clinton reste ouverte. Hillary, mais à l'échelle macroéconomique, dans le grand dessin, disons, l'instabilité en Libye pose pas de problème aux États-Unis et même au contraire, déstabilise l'Europe, justifie tout un tas de choses. Donc les Américains n'ont aucun intérêt à stabiliser la Libye. Et à partir de là, je pense que ceux qui auraient le plus grand intérêt à ce qu'elle soit stabilisée, à part une France gaullienne, mais qui n'est plus le cas, bah, je pense que ce seraient les Russes et simplement qu'ils n'ont pas du tout la situation assez en main pour y parvenir.
Pierre Conessa, vous avez un mot à ajouter sur cette analyse et ce constat des conséquences à moyen terme et peut-être même à long terme de la chute du régime libyen. Et voilà, est-ce que vous avez d'autres éléments d'analyse à ajouter là-dessus?
Oui, si vous voulez, la politique américaine au Moyen-Orient après le 11 septembre et la politique française en Libye, si vous voulez, sont l'exemple même de la contradiction entre des principes et une réalité de fait. C'est-à-dire, quand on fait une action armée en disant oui, mais on va installer la démocratie, bon, d'abord techniquement, les Américains ont une technique de guerre qui est assez facile puisqu'ils ont une supériorité absolue, donc ils commencent par tout casser par des bombardements aériens et tu casses les ponts, les centrales électriques, les usines de filtration d'eau, etc., etc. Bon. Et puis ensuite, les troupes peuvent arriver puisque l'armée locale n'a pratiquement plus les moyens de se défendre. Alors, je me souviens d'une interview qui avait été faite avec une espèce de radio-trottoir en Irak après l'invasion américaine. Le journaliste disait: vous avez de la chance, maintenant vous avez la démocratie. Et l'autre lui disait: oui, mais à l'époque de Saddam, on avait l'eau, l'électricité et la sécurité. Bon. Et là, vous avez toute la contradiction, si vous voulez, entre le fait de croire que parce qu'on est le camp du bien, la démocratie et que nos armées sont supérieures, on résout une crise. Non, on la transplante et on lui donne des caractéristiques nouvelles. Et vous voyez bien que, au bout du compte, alors que c'est plein pétri de bonnes intentions sur l'installation des droits de l'homme, la protection de la sécurité interpersonnelle, etc., on aboutit à une catastrophe qui est pire, qui est exactement le même scénario qu'en Libye. C'est-à-dire, vous révélez à ce moment-là toutes les caractéristiques de la société locale. Et puis, ben, au bout d'un certain temps, quand vous dites, bon, ben, écoutez, s'ils ne veulent pas de nous, on s'en va. Reparler au cas de la Somalie. C'est pas, moi, je ne suis pas d'accord. La Somalie, depuis la fin de l'intervention occidentale, est dans une pagaille absolue. Tout le monde s'en fiche. Pourquoi est-ce qu'on était intervenu à l'époque? Parce que justement, il y avait des gens comme Kouchner qui disaient, mais on ne peut pas laisser piller des convois humanitaires. On ne se demandait pas si les types étaient des voleurs ou si simplement ils essayaient de répartir différemment l'aide internationale. On va déclencher une intervention militaire dans un pays que personne ne connaissait suffisamment pour aboutir à cette catastrophe que vous connaissez, c'est-à-dire que finalement, avec 20 GIs tués, les Américains disent: ah bon, puisque c'est comme ça, on s'en va. Donc vous voyez cette espèce de futilité de la décennie 90, où on faisait de l'intervention militaire, alors là, pour des raisons de politique intérieure, hein, sans connaissance particulière du sujet, des caractéristiques de la crise, bon, ont finalement, si vous voulez, dissuadé une partie de l'activisme, si vous voulez, de ce complexe militaro-intellectuel. Mais on est aujourd'hui un peu toujours dans la même situation, c'est-à-dire que vous avez continuellement, à propos de n'importe quelle crise nouvelle, l'idée qu'après tout, il faut que le pouvoir politique occidental s'en occupe. Non, on est en train de basculer dans ce monde complètement nouveau, où on est obligé de se désintéresser parce qu'on n'a plus les moyens. Mais allez faire comprendre ça à un homme politique français, américain, anglais, non? Ils vont faire des interventions sélectives dans les endroits où effectivement un petit coup militaire peut suffire, disons, à débloquer une situation, mais c'est tout. Donc, si vous voulez, cette espèce de colonisation militarisée des années 90 est totalement terminée. Et puis évidemment, après le 11 septembre, alors là, toutes les priorités ont changé. Et puis on voit bien qu'au dernier épisode aujourd'hui, vous avez non seulement l'émergence des BRICS, mais vous avez surtout dans les pays occidentaux des gens qui commencent à dire on en a marre de défendre systématiquement Israël. Bon, ça fait beaucoup de changements quand même, hein, en peu de temps.
Alors, parmi les critères politiques, hein, on va aller vite sur ces sujets-là. Un certain nombre d'éléments ont été mis en avant. Donc, le double jeu de la diplomatie française, qui parle souvent de démocratie, mais qui n'hésite pas à soutenir certains autocrates dans la région. Hein. On pense notamment au Tchad, la présence d'Emmanuel Macron aux obsèques du président Idriss Déby et l'adoubement de son fils. Ça, c'est un élément qui a été. évoquées. On a aussi parlé du style personnel d'Emmanuel Macron, impatient, volontiers cassant, qui a pu heurter les élites africaines au pouvoir. On se souvient d'ailleurs que ce style assez directif ou assez direct de la présidence française a souvent été évoqué pour le cas de Nicolas Sarkozy, par exemple. On se souvient d'ailleurs aussi du discours de Dakar où Sarkozy déclarait que l'homme africain n'était pas suffisamment rentré dans l'histoire. Enfin, dernier élément, la politique de limitation de l'immigration en Europe, qui a pu engendrer d'énormes frustrations à l'égard de la France, avec une politique des visas qui est souvent perçue comme humiliante par les élites africaines. Voilà, pour les éléments politiques, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous voyez une pertinence et une effectivité sur le terrain de ces différents critères politiques qui expliquent finalement une relative francophobie peut-être? Je parlais tout à l'heure de fièvre anti-française en Afrique. Est-ce que pour vous, ces critères sont convergents et expliquent en partie cette francophobie? Idrissa Berkane.
Bah, je pense que c'est vraiment l'aspect culturel qui est devenu déterminant, quoi. On n'est plus dans la guerre froide, mais ça reste la guerre froide 2.0. Et sur les réseaux sociaux, la jeunesse africaine se sent une communauté d'opinion avec la Russie. Pas que, hein, mais si on leur demande vraiment de choisir, enfin, ne serait-ce que des sondages d'opinion, quoi. Si on leur mettait qui de Poutine ou de Macron vous semble être un meilleur chef d'État, ou que sais-je, on verrait, on voit une majorité qui part sur Poutine. Et c'est quelque chose qui a pris quelques années, bien sûr, hein, mais le prestige culturel de la France s'est réduit, malgré le fait que ce soit francophone, malgré le franc CFA, malgré plein de choses. Et on le voit aussi sur les étudiants à l'étranger. Les étudiants sénégalais, par exemple, partent plus volontiers, alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, aux États-Unis. Alors, ils disent, oui, on trouve que Poutine est très bien, mais on va quand même étudier aux États-Unis. Et on voit dans les flux d'étudiants étrangers, alors il y a eu bien sûr les politiques de visa, etc. Et Didier Raoult en parlait très bien, parce qu'il accueillait plein d'étudiants étrangers, puis il disait à l'IHU que les étudiants africains, les thésards africains qu'il avait étaient les plus productifs, et que selon lui, il l'a dit dans une audition au Sénat il y a 4-5 ans, que selon lui, c'était vraiment là qu'il fallait centrer les choses en matière de délivrance de visa, justement. Que les étudiants africains avaient un énorme potentiel. Il parlait en tant que chercheur. Mais bon, culturellement, la jeunesse africaine ne se reconnaît pas dans la France aujourd'hui. Et je pense que le problème part de là, fondamentalement. Après, il peut y avoir plein d'autres choses, mais encore une fois, le fait d'envoyer un ambassadeur LGBT au Cameroun et de se voir répondre, écoutez, quand les Chinois viennent, ils parlent de barrages hydroélectriques, d'autoroutes et d'hôpitaux. Ça aussi, ça joue énormément parce que c'est pas lisible, quoi. Qu'est-ce que la France attend de l'Afrique? Quelle est la clarté, la limpidité de sa relation avec l'Afrique, qui a une base originale, typiquement les francs CFA? Bon, c'est pas lisible en fait. C'est pas lisible. Culturellement, qu'est-ce que la France fait en Afrique pour un Africain? C'est plus lisible. Et tant que ce sera plus lisible, peut-être que ça le sera plus jamais, j'en sais rien. Peut-être qu'à la faveur de ce manque de lisibilité et de clarté, bah, tout un tas de pays vont occuper le vide laissé. Il reste aujourd'hui le lien de la langue, qui est un lien fort, mais même ce lien est attaqué, puisqu'on le voit aussi bien au Maroc qu'en Algérie, la francophonie est attaquée. En plus, voilà, même le Maroc a dénoncé les relations avec l'Élysée, et puis c'était violent, hein, quand la couronne a dit nos relations ne sont ni bonnes ni cordiales. On peut pas être plus clair. Mais il reste une base. Alors, quelqu'un qui aurait la possibilité de créer une lisibilité sur 20 ans, donc de laisser un héritage hors des partis. Un héritage qui voudrait bien être pris par la diplomatie française et puis par le développement, par l'économie française, par les moyens d'investissement de la France à l'étranger, pourrait rétablir la situation, mais honnêtement, j'y crois pas.
Alors, Pierre Conessa, on revient brièvement sur l'action russe hein, dans cette éviction ou dans cet amoindrissement de l'influence française en Afrique. Donc, l'influence grandissante de la Russie en Afrique s'est naturellement accompagnée d'un travail par les Russes, d'un travail d'encouragement du sentiment anti-français et simultanément du déploiement des milices Wagner sur le terrain, comme vous l'avez rappelé. Ce que j'aimerais savoir, c'est finalement quel est le poids et l'importance de cette action russe dans cette éviction d'influence française en Afrique. Voilà. Comment vous évaluez ça? Parce qu'on a parlé des critères endogènes à la gestion française, à la politique et à la diplomatie française en Afrique, et ensuite s'est greffé à cela la présence, la pénétration de l'influence russe dans cette région de l'Afrique. Comment vous évaluez ce poids enfin le poids et l'importance de cette action russe?
Sur le cas de l'intervention de Wagner, moi je suis toujours fasciné quand tout à coup vous apparaissez dans les médias quelque chose qui paraît totalement nouveau. Alors, de regarder Wagner, c'est une compagnie militaire privée. Bon. Le concept a été inventé par les Sud-Africains après l'apartheid, puisqu'il y avait des sureffectifs et ils ont fait des interventions militaires dans toute l'Afrique, mais c'était des Sud-Africains de la démocratie, donc ça ne pouvait pas être des compagnies militaires privées. Enfin, c'était des actions de compagnies militaires privées, mais pas des compagnies militaires privées. Bon. Ensuite, le concept a été repris par les Britanniques et il a surtout été repris par les Américains, puisque les Américains en Irak, il y avait plus de contractors que de GIs. C'est-à-dire que vous aviez, je crois que c'était Executive Outcomes, qui gérait la prison d'Abu Ghraib. On dirait que dans le genre, ça fait beaucoup quand même. Et tout à coup, quand les Russes découvrent la compagnie militaire privée, on dit, oh là là, mais c'est incroyable, c'est un bouleversement de la situation internationale. Ça, c'est le premier point. Deuxième caractéristique, toujours sur les Russes, hein, l'intervention en Ukraine, c'est scandaleux, c'est une opération militaire spéciale. Toutes les interventions que nous avons faites depuis 1990 ne sont jamais passées devant le Parlement. C'était toutes des opérations militaires spéciales. Alors on se dit, mais pourquoi quand c'est les Russes qui les font, c'est pas bien? Donc, vous voyez, moi, c'est ce mode de décision et ce système, comment dire, d'affichage par des gens qui finalement ne connaissent pas les sujets, mais qui font que vous construisez un ennemi qui est finalement tellement facile à désigner, et c'est le cas de Poutine. Troisième strate, évidemment, les Russes découvrent l'Afrique, ils ont un certain savoir-faire, ils avaient effectivement à l'époque de la décolonisation des pays dans lesquels ils avaient déjà développé une influence, mais encore une fois, l'Afrique est un panier percé. C'est-à-dire, s'ils arrivent à faire quelque chose en Afrique, tant mieux, tant mieux. Moi, c'est l'intérêt des Africains qui m'intéresse. Les intérêts français en Afrique, je trouve que ça n'est plus un sujet. Depuis la création de l'Europe, tout le système économique et politique et stratégique français aurait dû se recentrer sur cette question-là. On gardait comme appendice une politique africaine qui montrait chaque jour ses limites, mais ses échecs. Donc je me dis, si les Russes veulent s'en occuper, tant mieux, tant mieux. Il faudrait les aider même. Et ils verront effectivement qu'est-ce que c'est que de gérer l'Afrique.
Idrissa Bérecane, pour conclure, voilà quelle forme pourrait prendre peut-être ce bras de fer franco-russe dans cette zone, cette ancienne zone où enfin, il y a quand même encore une influence française, hein, il faut nuancer, mais voilà quelle forme pourrait prendre ce bras de fer franco-russe dans cette région de l'Afrique, selon vous? Vous avez parlé comment dire, des centrales nucléaires, vous avez insisté là-dessus. Est-ce que ça pourrait prendre d'autres formes?
Mais déjà, je ne le souhaite pas, ce bras de fer, parce que, mine de rien, mais même si De Gaulle avait une politique tout à fait tierce et neutre, et était capable de renvoyer les Russes dans leur 22 avec propreté, ça reste dans la grande politique étrangère française, dans l'intérêt d'avoir de bonnes relations avec Moscou. Et on le voit, enfin, typiquement maintenant que la France a le potentiel d'être la plus grande thalassocratie du monde, ce qu'elle est que de juré, puisque plus grande zone économique exclusive au monde ou deuxième plus grande selon comment on compte. Et les Russes, c'est la tellurocratie éternelle. Une France et une Russie qui agiraient de concert auraient un impact dans les affaires mondiales qui serait colossal. Surtout si la France avait, en parallèle, investi massivement dans sa marine marchande et militaire. Dans sa capacité de culture en haute mer, dans la culture d'algues, dans la pisciculture en haute mer, etc., comme font les Coréens, qui sont les plus grands armateurs du monde et aussi les plus grands cultivateurs d'algues au monde. Et ça donne des résultats colossaux. Si la France faisait ça, il n'y aurait aucune raison de faire un clash avec la Russie. Et je reprends ce qu'a dit Pierre Conessa, c'est-à-dire, on pourrait même les aider. Très bien, s'ils veulent développer l'Afrique, qu'ils y aillent, en effet, parce que mine de rien, le niveau d'instabilité, de corruption, etc., fait que c'est. Ça ne sera pas du tout une partie de plaisir, mais bon, s'ils ont trouvé la formule magique, on est peut-être dans la guerre froide 2.0 vis-à-vis des Américains, mais on n'est plus dans la guerre froide culturelle, idéologique, où on faisait assassiner Lumumba, où on faisait assassiner Sankara, etc. Ça, c'est fini. Donc, si les Russes veulent y aller, alors les seuls qui pourraient vraiment ne pas être d'accord, c'est les Américains. C'est sûr que si demain, il faut se rappeler, le grand monument à Dakar, là, il a été fabriqué par les Coréens du Nord, là, le monument de la Renaissance africaine. Ça avait moyennement plu, mais bon, c'était vite fait, quoi. C'était cosmétique. Mais si demain Dakar devient un port russe, là, Washington ne va pas être content du tout, quoi. Donc, et c'est là, nous, on ne pourra pas les aider. Donc, en conclusion, Le clash, je le vois de cette façon. Je le vois sous l'angle de la subordination de la diplomatie française. C'est-à-dire que tout clash franco-russe en Afrique devra d'abord passer par Washington, je pense. Je vois mal des clashs franco-russes à notre initiative. Je vois d'éventuelles humiliations diplomatiques, je vois d'éventuels arbitrages où notre armée en France a fait d'excellents. Enfin, l'opération Barkhane, par exemple, sur le plan militaire, c'était vraiment bien, mais sur le plan politique, c'était mal calculé depuis le début, quoi. Et je vois que des escarmouches de cette nature, avec éventuellement des humiliations diplomatiques et politiques de la part des Russes. Mais un clash, ça ne sera pas entre Paris et Moscou, ça sera entre Washington et Moscou, et Paris sera le petit télégraphiste qui fera ce que Washington lui demande. Désolé d'être pessimiste à ce niveau-là.
Merci Idrissa Berkane, merci également à vous Pierre Conessa d'avoir participé à ce débat et à cet échange sur l'évolution de la diplomatie française au Proche-Orient et en Afrique. Merci également à tous nos auditeurs pour leur fidélité. C'est la fin de cette émission et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Misaine TV.